Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
D'ailleurs, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info. Bonjour tout le monde, vous écoutez Micro-ondes, on est en direct de la radio, de Radio Kaleidoscope 97 FM, j'espère que ça va bien. Moi c'est Samia, on a plein d'invités, aujourd'hui on va parler de Ralph Ron, de lutte antifasciste, mais d'abord on voulait vous proposer de commencer par les brèves, et pour ça je vous laisse Yvon.
Oui bonjour, le temps de m'installer. On est nombreux, beaucoup plus nombreux que les micros. Et donc, dans les brèves d'actualité, on a quelque chose qui est très important. Ce sont les luttes contre les violences policières. Vous avez sans doute vu dans les médias qu'à Valence, carrément, il y avait tous les handicapés dus aux violences policières qui étaient en tête de manif. Ce qui est actuellement, ça se réveille un petit peu de partout pour faire pièce à la propagande gouvernementale qui veut faire croire que en fait c'est que des provocations des manifestants, des gilets jaunes. Donc, il se passe au niveau des avocats, au niveau des juristes et localement, on a la constitution à Grenoble d'un large collectif avec beaucoup d'associations. À l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais il y a aussi un collectif national. Et il se passe, ça devient le sujet. Donc c'est peut-être le point important, un retour de bâton et d'arrêter le massacre. Hein, voilà, on est dans une dérive sécuritaire et violente, et pas seulement la violence idéologique, la violence également physique. Hein. Voilà. On reviendra là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une grosse initiative qui se prépare pour le 16 mars, qui sera nationale et qui aura sûrement des répercussions dans pas mal de villes. Mais il y aura, comme chaque année d'ailleurs, une montée à Paris qui souvent a un grand succès. Voilà, deuxième brève. C'était pour rappeler qu'il y avait également, localement et nationalement, mais localement, de nombreuses manifestations à Grenoble et dans l'Isère pour le logement. Il y avait mercredi une soupe populaire qui, pour faire pendant au soi-disant recensement des personnes à la rue, mission carrément impossible tellement qu'il y en a et qui ne sont pas toujours visibles, il y aura le recensement des logements vides qui sont très nombreux dans l'agglomération grenobloise. Il y a également des mobilisations, notamment contre le risque d'expulsion imminent de Rome à Fontaine, le terrain Courtade, sur demande du maire de Fontaine, qui lui considère qu'il crée des désordres, etc., des choses qui ne sont absolument pas vérifiées. Donc il y a une grosse mobilisation également dans les milieux militants, mais bien au-delà. Contre cette expulsion. Il y a un jugement qui va être rendu mercredi prochain, donc soyons attentifs à ce qui va se dire. Et puis, il y a eu aussi, on ne peut pas tout développer en deux minutes, mais il y a une expulsion qui s'est faite de façon scandaleuse au 130 Courberia, où il y a environ une bonne trentaine de personnes, dont la moitié d'enfants, qui ont été mis à la rue, sans que personne soit au courant, sans qu'il y ait tellement d'anticipation sur les endroits où ils peuvent aller en plein hiver. Ça devient de pire en pire à ce niveau-là. Voilà. Et puis, ce sera peut-être l'avant-dernière brève, une mobilisation également régionale contre l'implantation des bases néo-nazies qui tendent à se développer. Il y en a une à Lyon, une à Chambéry. J'aurais peut-être pas toute la liste, malheureusement. Il y en a, je crois qu'il y en a cinq dans la région. Il y en a même un risque à Mélan avec les Civitas qui sont en train de s'implanter là. Et donc, hier, il y avait une manifestation, d'ailleurs, sur Chambéry pour se bagarrer contre le bastion social, ce qu'ils appellent, c'est un local qui s'appelle Edelweiss, interdit aux Arabes et aux Noirs, et très, très plein de fascistes. Et puis, je crois qu'il y avait aussi la manif des Soudanais. Est-ce que c'est maintenant ou c'est plus tard ?
Pour la manif des Soudanais, on va vous passer un montage réalisé à partir de propos recueillis lors de la manif des Soudanais, qui a eu lieu à Grenoble le 19 janvier en soutien au mouvement social dans le pays.
Il y a plus de 200-300 Soudanais qui se manifestent aujourd'hui dans la ville de Grenoble par rapport au dictateur Omar el-Béchir qui ne cesse de tuer les Soudanais et Soudanaises et leurs enfants au pays.
Je m'appelle Tibien, j'ai 14 ans, je viens du Soudan et j'ai les papiers français. Et après, je veux aider les gens qui sont au Soudan. Depuis 2016, je suis en France, j'ai parti de mon pays. Parce qu'il y a le président, et il fait la guerre et tout. On veut qu'il parte, on veut nos libertés. Que le président, il tombe et on veut qu'il parte.
Solidarité avec le soulèvement populaire au Soudan. Depuis le 19 décembre, les Soudanais et Soudanaises organisent dans tous les pays des manifestations pacifiques et réclament le départ du président Omar el-Béchir. La police tire à balles réelles sur les manifestants et manifestantes. À ce jour, on répertorie 40 morts d'adultes et enfants et des femmes. Environ 1000 arrestations des journalistes, des leaders d'opposition et des manifestants et manifestantes. Le prix du pain qui a triplé, les pénuries d'essence et d'argent liquide dans les banques et la hausse générale des prix des produits de première nécessité ont poussé les peuples soudanais et soudanaises à sortir une nouvelle fois dans les rues. En 2011, 2013 et 2016, des larges mouvements de contestation se sont déjà fait sévèrement réprimer par les gouvernements. Ils dénonçaient déjà les lois d'austérité successives imposées, la corruption du régime et la responsabilité d'El-Béchir dans la mort des milliers de personnes. El-Béchir est arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire contre la volonté du peuple en 1989. Il a fait interdire tous les partis et dirige le pays d'une manière dictatoriale. Il a instrumentalisé les conflits entre les tribus au Darfour. Il est mis en accusation par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis durant la guerre du Darfour 2009 et 2010. Cette mise en accusation n'a rien changé à la situation et cette année encore, l'ONU condamne la violence de la répression. Depuis son arrivée au pouvoir, le pays a connu des sanctions économiques, entre parenthèses boycott et embargo, qui ont mené le Soudan à un isolement international. On ne se fait pas confiance à l'ONU. L'ONU aussi, c'est un système mis en place pour contrôler la richesse africaine et diriger et choisir les dictateurs en Afrique.
Certains mouvements ne veulent pas des migrants, mais il faut savoir d'où viennent ces migrants. Qui est à l'origine de leur arrivée ici? C'est le système qui soutient ces dictateurs, qui nous impose des dictateurs. Et ces dictateurs répriment la population en place. Dit-on que la France, entre guillemets, c'est un pays des droits de l'homme. Ce système français reçoit des hauts responsables soudanais ici pour faire reconduire des Soudanais de France au Soudan. Et ces personnes qui se sont répatriées au Soudan, la plupart se sont tuées, se sont emprisonnées, torturées. Hein, des femmes violées.
Merci encore pour le soutien des Gilets jaunes. Nous aimerons vous dire que le même système qui vous détruit ici nous impose des dictateurs en Afrique. Ces dictateurs nous tuent, nous pillent, et on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de faire des trucs. Et ce système qui vous détruit ici organise de la guerre chez nous, vend des armes chez nous,
Et là, les médias ici n'en parlent jamais de ça.
Les régimes ont déclenché les guerres civiles les plus sanglantes du XXe siècle qui ont conduit à la sécession du Sud-Soudan pour des motifs religieux et ethniques. Depuis 30 ans, plus de 300 000 personnes sont mortes au Darfour et 10 millions de personnes ont été déplacées. Elles sont migrantes et réfugiées. El-Béchir réprime les citoyens et citoyennes manifestants et manifestantes non armés. Et elle pratique aujourd'hui le meurtre, la torture et la détention arbitraire contre des manifestants et manifestantes pacifiques. Juste parce qu'ils sont sortis dans le riz pour revendiquer leurs droits et réclamer son départ. Liberté, paix, justice pour les Soudanais et Soudanaises, la révolution et les choix du peuple. Tasqot, 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 El-Béchir.
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope, vous écoutez toujours l'émission Micro-ondes 97 FM. Et voilà, on a passé les brefs, c'était très intéressant tout ça. Mais maintenant, on va passer aux invités et je vais vous laisser vous présenter chacun, chacune. Je vous en prie. On va commencer par toi, Emma.
Du coup, moi, c'est Emma, je suis étudiante sur Grenoble. Et je me suis engagée récemment dans l'antifascisme et dans les luttes contre le racisme en général et contre le sexisme.
Moi, c'est Louise. Je dirais que ça fait très longtemps que je suis sensibilisée à la question antifasciste parce que j'ai eu la chance de grandir en région PACA, et notamment à Toulon. Donc j'ai fui en 95 quand le FN est passé à la mairie et pour atterrir dans une autre ville qui n'était pas mieux, qui était Nice. Que j'ai fui aussi pour atterrir à Grenoble. À un moment, il y avait des grosses manifs au passage à la fin des années 90 contre le Front National. Et ça m'a donné envie de rester ici. Et je suis restée ici pour ça, notamment.
Alors moi, je suis Claude. Pourquoi je lutte contre le fascisme et tous les ismes? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais compris comment on pouvait être... contre un autre être humain. Et peu à peu, je me suis dirigée vers des mouvements qui pouvaient m'aider, en particulier dès le départ vers ce qui s'appelait à l'époque RALFRONT, qui est devenu le réseau de lutte contre le fascisme, ce qui m'a amenée à réfléchir et à me dire que la lutte était également politique. Et je suis tombée dans le NPA, parce que là, j'ai trouvé des sœurs et des frères, des alliés, comme disait notre amie Samia.
Moi, je m'appelle Roselyne, donc je suis présidente du Centre d'information Interpeuple. C'est une association, en fait, qui existe depuis 40 ans et qui milite pour la solidarité ici, donc beaucoup, beaucoup avec des migrants, avec des groupes de personnes migrantes. Et la solidarité là-bas, donc on est à chaque fois qu'il y a nécessité, et il y a souvent nécessité, par exemple dans le collectif Brésil ou dans les réunions antifascistes, voilà. Et je dirais après pourquoi je suis tombée dans l'antifascisme, voilà.
Bonjour, je suis Florence. Donc, je suis membre du réseau de lutte contre le fascisme, RALFRONT pour les intimes, que j'ai rejoint à la fin des années 90. Et donc, je milite toujours avec cette association depuis.
Bonjour, je suis Myriam. Eh bien, comme Florence, je suis tombée dans le réseau RALFRONT, Florence dit pour les intimes. Claude a parlé de RLF Isère. Effectivement, maintenant, on s'appelle le réseau de lutte contre le fascisme en Isère. Mais quand même, RALFRONT, moi, je suis tombée dedans il y a, je sais pas, une quinzaine d'années.
Merci. Et du coup, nous avons également sur le plateau Yvon qui reste là et Idriss aussi pour pouvoir intervenir. Bonjour. Si jamais il en a envie.
Bonjour.
Et du coup, voilà. Et du coup, Claude, tu anticipais, du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était vous, personnellement, dans vos vies, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez été sensibilisé aux questions du racisme et que vous avez commencé à vous engager dans ces luttes-là? Du coup, voilà, je vous laisse vous battre pour la parole.
Bah, du coup, je veux bien revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, Louise, j'ai grandi... D'abord, je suis issue d'une famille de pieds noirs, ce qui n'est pas complètement anodin. Donc, des gens qui ont vécu une certaine frustration et qui l'ont imputée aux Arabes, pour dire les choses simplement. Au sein de ma famille, c'était déjà assez tendu parce que je ne comprenais pas en fait cette position. Voilà. De grandir dans un environnement politique qui était extrêmement individualiste, parce que la région PACA, c'est chacun sa gueule, je le dis un peu trash, mais volontairement comme ça, parce que tout le monde a du fric en fait, que donc le bien commun n'existe pas, que chacun est relégué dans sa condition avec quand on veut, on peut, comme idéologie dominante, et une espèce de méritocratie qui de façade en fait, parce que c'est il y a pas mal de gens qui sont héritiers de fortune, enfin beaucoup d'argent et tout. Et résultat, dans cet univers-là, être pauvre et être arabe ou noir, c'est vraiment pas très agréable à mon avis. Et il y a une violence quotidienne, je trouve, dans les rapports sociaux qui s'exercent à l'encontre des plus vulnérables et des plus stigmatisés. Voilà. Ça est devenu insupportable en 95 parce qu'on s'est mangé un fourgon de CRS tous les 150 mètres sur l'avenue de Strasbourg à Toulon. Et une espèce de légitimation de pratiques de type ratonnade qui avait cours jusque-là, mais qui là, du coup, était décomplexée. Moi, je me suis barrée à Nice en oubliant que Perra, à l'époque, à la mairie, venait du Front National, en fait, et qu'il était juste démocratie libérale, mais en fait, ça changeait rien. Et on a eu droit, à l'époque, au premier référendum anti-SDF de France. Je le dis parce que c'est important pour faire le lien entre les populations qui sont visées parce qu'elles sont racisées et les populations qui sont finalement juste pauvres et marginales. C'est à peu près la même chose, c'est un système de domination, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, à l'époque, c'était très violent. Moi, c'était en 95. On occupait la fac et on s'est pris dans la gueule les attaques répétées du Renouveau étudiant, qui était un syndicat fasciste, à l'époque de Vardon, pour ceux qui connaissent les identitaires niçois. Et voilà, donc je suis arrivée à Grenoble avec un sentiment de soulagement très fort en fait, et j'y suis restée pour le tissu militant, politique, associatif, culturel que j'y ai trouvé en fait. Voilà. Et cette dimension collective que je trouvais pas du tout dans le sud de la France.
Ah pardon. Alors pourquoi? Ben je sais pas toujours pareil. Pourquoi? Parce que moi j'étais d'un milieu. Pardon. Oui, je suis Claude. J'étais d'un milieu moyen, on va dire. Moyen, moyen plus. Mon premier acte militant, ça a été de refuser d'aller acheter minutes pour ma mère, à l'époque de Tixier-Vignoncourt, ça parlera à certains. Et parce que donc je ne comprends pas. En fait, je veux comprendre pourquoi on peut être raciste, sexiste. J'aimerais le comprendre. Et parce que j'ai besoin de bouger, de la chaleur des autres et de l'action des autres qui m'aident à vivre tout ce qui se passe autour de nous et à m'aider à croire que mes petits-enfants, puisque je suis vieille, ont un avenir.
Une jeune fille tout de même. Et toi, Roselyne ?
Moi, en fait, j'ai vécu, moi, dans un quartier très pauvre du Mans, à la limite de la ville. Et c'était très très pauvre. Mais c'est là que j'ai découvert qu'il y avait toujours plus pauvre. Il y avait un bidonville à 400 mètres avec des réfugiés espagnols. Donc ils vivaient dans des... Aujourd'hui on dirait un bidonville, mais c'est toujours des bidonvilles. Et ils étaient rejetés par les plus pauvres du quartier, sauf quelques familles, dont mes parents, dont j'étais très fière. Et en fait, moi je croyais que ça se passait que là, que dans ce quartier. Et puis quand on est allé à l'école du quartier, eux, les filles, c'était une école de filles, les filles qui venaient de ce quartier, de ce bidonville, elles ont été mises dans le fond de la classe parce qu'elles étaient sales en arrivant. Forcément, il n'y avait pas d'eau du tout. Elles allaient chez des gens se laver et tout ça, c'était un peu compliqué. Et petit à petit, j'ai compris que c'était pas la maîtresse qui était méchante particulièrement. C'était pas une question morale. C'était un système. C'était vraiment un système. Et ça, ça a été ma première conscience que franchement, le racisme, partout, mais dans le quartier pauvre où j'ai vécu, ça sert à rien, sauf à nous diviser, à nous faire casser la gueule les uns par rapport aux autres. Et la deuxième chose qui m'a poussée plus loin, c'est moi je suis comme Claude, j'ai pas 20 ans Et c'est les affaires de la guerre d'Algérie, parce qu'à la fois, il y avait des gens qui avaient fait la guerre contre le nazisme, qui étaient résistants, qui étaient là dans le quartier, c'était des prolos. Et puis, il y avait aussi des prolos qui avaient fait la guerre, qui rentraient en parlant de bicot, de, etc., etc. Et franchement, c'était un milieu pauvre, mais assez politisé. Et je comprenais bien que, bon, il y avait guerre et guerre, et que la guerre entre nous, bon, c'était pas bon du tout, ça nous rapportait rien. Et du coup, je me suis engagée à partir du racisme et à partir de la guerre. Comme ça, petit à petit, jusqu'à Ralph Ron, effectivement, la création de Ralph Ron, qui a été un grand moment ici, en particulier à Grenoble, mais pas que. Et voilà, c'est tout.
Et toi, Florence ?
Alors moi, avant de préparer cette émission, j'ai essayé de me rappeler au moment où s'est réveillée ma conscience militante. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà à l'école. Et je me rappelle une anecdote, c'était en classe, un grand qui avait dessiné une croix gammée sur un cahier. Et l'instit était allé vers lui et lui a envoyé une baffe comme c'est pas possible. Et il y avait une émotion dans cette dans l'instit. On voyait qu'elle avait été touchée parce que bon, elle devait être adolescente pendant la guerre. Et le cours s'était arrêté. Et là, on avait fait un cours d'histoire, mais très très pointu sur ce qu'était le nazisme, à quoi ça avait conduit. Et en fait, après, j'ai beaucoup lu de livres sur la guerre, sur les camps de concentration, sur l'antisémitisme. Et puis après, j'ai eu une longue période, on va dire, de latence où j'ai pas plus du tout milité. Par exemple, j'ai pas du tout adhéré à tout ce qui était SOS racisme. Je m'y reconnaissais pas parce qu'en fait, je suis originaire d'un quartier populaire de Voiron, donc je suis d'origine d'une famille très modeste. Et en fait, bon, les copains du quartier, c'était première et deuxième génération, italiens, espagnols, algériens, voilà. Donc c'était super sympa et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre qui existait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'aller au collège. Et là, les copains qui étaient d'origine étrangère, bah non, bah eux, ils n'avaient pas le droit d'aller au collège. Donc je les ai tous perdus, en fait, parce qu'on n'avait plus le même truc. Et quand je suis arrivée au lycée, bah le plafond de verre, il s'est appliqué à moi, en fait. Parce que comme j'étais d'origine, comment dire, de sociale modeste, on m'a fait comprendre que, bon, je n'étais pas non plus une élève méritante, mais on m'a vite fait comprendre que, bon, j'allais pas non plus faire de grandes études. Et donc, c'est toute cette injustice sociale, après, que je n'ai jamais supportée, en fait, par rapport à moi, mais surtout par rapport aux autres. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'empathie et je trouve que toute cette injustice sociale crée énormément d'humiliation pour ceux qui la vivent. Et toute cette humiliation, elle peut être une colère qui peut être créatrice, mais souvent elle est pleine de rancune. Et je pense que c'est de là que viennent beaucoup de haine et beaucoup de difficultés à communiquer entre nous. Et puis après, il y a eu mon engagement militant date en fait de la fin des années 90, quand Millon, je ne sais pas si vous vous rappelez, avait pris le conseil régional avec l'appui du Front National. Et là, je me suis dit quelque chose de très très grave. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables sur Voiron qui militaient avec Ralph Ron qui venait de se créer. Et grâce à eux, ben, j'ai construit mon militantisme, parce que au départ c'est pas évident parce qu'on est plein de préjugés. Et grâce à toutes ces belles rencontres que j'ai fait de militants, j'ai pu devenir une militante antifasciste. Je pense que maintenant arrive à avoir un discours sérieux et qui arrive à faire passer tout ce discours auprès des personnes de mon entourage.
Et toi, Myriam, tu veux intervenir là-dessus?
Oui, merci. Bah, rapidement, parce que j'ai en train de réfléchir. Depuis toute petite, je l'ai ressenti, ce racisme. Je vais pas raconter ma vie, mais voilà, je suis d'une famille, ma maman française, bourguignonne, mon père algérien. Je suis née en 62, mars. Ça doit peut-être rappeler quelque chose. J'ai vécu, bien sûr, je suis née en France, je suis française, mais quand même, j'ai compris quand même qu'on me regardait pas de la même façon que les autres à l'école, de par mon nom, mais je l'ai pas vu tout de suite. Et voilà, j'ai grandi, et puis au lycée, je commençais à m'intéresser à toutes les questions, les luttes anticoloniales. Parce que ça me posait question quand même, toute cette histoire. J'ai appris aussi après que mon papa a été militant au FLN. Voilà, et du coup, j'ai voulu m'en savoir un peu plus sur toute cette histoire que, je, évidemment, c'est pas évident de savoir, étant d'un couple voilà mixte. Voilà, ça a traversé toute ma jeunesse, et puis, eh bien, après, ça, je me suis un peu reposée parce que j'ai eu des enfants, et puis j'étais pas trop militante à ce moment-là, mais ça me posait question. Toutes les questions du FN, du racisme, tout ça, ça me touchait au plus profond de moi. Et puis à un moment, j'ai monté une petite association de lutte contre le racisme avec une copine. Et puis après, j'ai rencontré les amis de Ralph Ron sur Voiron, et tout de suite j'ai trouvé une famille, si on peut dire. Enfin voilà, comme l'a dit Flo, je crois, ou quelqu'un ici, on se comprenait en fait. Mais les raisons sont diverses et variées, mais toutes les questions sur les luttes anticoloniales m'ont toujours intéressée. J'ai croisé les jeunesses communistes au lycée, c'est eux qui ont commencé à m'embarquer là-dedans. Voilà.
Et toi, Emma ?
Moi, du coup, mon engagement antifasciste, il est beaucoup plus récent, forcément, parce que je suis la plus jeune. Du coup, moi, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt de gauche, en Ardèche, donc avec cette question qui... C'est des questions auxquelles j'ai toujours été sensibilisée. Après, voilà, en Ardèche, c'est un département qui est très blanc. Du coup, les questions de racisme ne se posent pas forcément de manière très visible. Mais j'ai toujours été assez sensible à certaines réflexions que pouvaient faire des profs ou des camarades de classe. Ce qui a vraiment fait tilt, je pense, c'est en fin de terminale, il y a 2 ans, quand le Front National est arrivé au second tour des élections. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de banalisation du fascisme, en fait, que c'était vraiment que l'extrême droite, c'était considéré comme tout le reste de la classe politique. Et puis, donc en arrivant à la fac, j'ai commencé à m'engager un petit peu sur des questions sociales. Et il y a eu l'ouverture du patio solidaire, donc sur le campus de Grenoble, donc lieu où on accueille des demandeurs d'asile depuis un peu plus d'un an maintenant. Et du coup, j'ai commencé à accompagner ces demandeurs d'asile dans leur situation administrative. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un espèce de racisme d'État, en fait, permanent dans la façon dont les cas sont gérés, dans la façon dont on essaye de les désespérer au plus possible, etc. Et du coup, ça m'a donné envie de lutter contre ça, déjà d'accompagner les personnes qui sont touchées, et puis de faire de la sensibilisation, d'en parler autour de moi, d'essayer d'être beaucoup plus ferme en fait, dans mes positions aussi, dans les conversations entre amis ou en famille. Voilà.
D'accord. Alors du coup, je pense que ce serait bien aussi que je dise moi aussi d'où est-ce que ça me vient, parce que en fait je suis pas journaliste et je suis pas non plus venue de nulle part. Alors du coup, pour moi, ce qui m'a donné envie de m'investir dans des luttes antiracistes, c'est le fait que je suis moi aussi comme Myriam moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai une mère française et un père tunisien, et que en fait j'ai vécu des choses dans la vie qui s'apparentaient à du racisme, mais sauf que j'ai mis très 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 longtemps à comprendre que c'était du racisme. Et c'est que en fait du coup, toutes les choses que j'ai vécues, elles m'ont laissé un sentiment dans le ventre, en fait, un truc d'injustice, une colère, ce genre de choses, mais je savais pas dire quoi, comment ou qu'est-ce, je savais pas. Et pas un peu par hasard, j'ai rencontré des gens et des choses, j'ai fait des choses un peu militantes dans la vie qui m'ont permis de rencontrer d'autres gens encore, qui m'ont permis de comprendre des choses sur ce que j'avais vécu, sur le racisme dont j'avais été victime, tout ça. Et en fait, toutes ces sensations que j'avais dans le ventre sont devenues une réflexion politique. Et ça fait vachement du bien. C'est un truc de fou. C'est voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de m'investir dans les trucs antiracistes et antifascistes. Et j'attends encore de rencontrer d'autres personnes. Mais voilà. Mais maintenant, je voulais vous proposer de parler un peu de comment on définit le fascisme, comment on définit l'arrivée du fascisme dans une société, ce genre de choses. Et je voulais vous proposer de passer un extrait d'une conférence de Hugo Paletta, qui a été invité par Ralph Ron le mois dernier autour de son livre « La possibilité du fascisme ». Et en fait, on a sélectionné dedans des parties pour circonscrire cette notion de fascisme. Le fascisme, c'est quoi ? Mais avant, je voulais vous proposer d'écouter un petit morceau de musique. On va écouter un morceau de Sniper qui s'appelle « Pris pour cible », choisi par une invitée ici autour de la table, si elle veut le présenter ce morceau.
C'est moi, Emma, donc, qui l'ai choisi, mais j'ai rien de spécial à dire dessus. Je trouvais qu'il se prêtait bien à l'émission.
Ok, merci. Eh ben, on écoute ça et après, on écoute le Hugo Paletta.
Écoute de Radio Kaléidoscope 97 FM pour l'émission Micro-ondes. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'antifascisme. Et tout de suite, on écoute le montage.
Quand on est de moins en moins capable, voire plus capable, de savoir où passe la frontière entre la droite extrême et l'extrême droite, c'est quand on est dans une situation historique dans laquelle le danger fasciste devient d'une certaine manière imminent. Le plus évident, mais pas du tout suffisant, c'est déjà de dire que le fascisme, c'est un nationalisme. Mais évidemment, c'est pas suffisant parce que tous les nationalismes ne sont pas fascistes. Le nationalisme palestinien, par exemple, n'a rien de fasciste, il a pas du tout la même signification politique. Globalement, les nationalismes de pays qui sont opprimés par d'autres pays, notamment dans des relations coloniales, ne sont pas des nationalismes qu'on peut comparer au nationalisme impérialiste français, au nationalisme nazi ou fasciste. Bon, donc des nationalismes, il en existe de toutes sortes. Donc ça suffit pas de dire que le fascisme est un nationalisme, mais en même temps, on peut pas ne pas le dire. Donc c'est un nationalisme. En ce sens, il vise une forme de renaissance nationale, comme toutes les formes de nationalisme, une forme de régénération nationale. Mais la spécificité du nationalisme de type fasciste, c'est que pour les fascistes, la condition de la renaissance nationale, c'est de se débarrasser des ennemis et des traîtres, de tout ce qui, dans une société, du point de vue des fascistes, fait conflit, fait division. C'est-à-dire divise le corps national, en particulier les minorités religieuses, en particulier les minorités ethno-raciales, c'est inscrit dans le patrimoine politique des fascistes. L'ennemi principal, c'est-à-dire donc les étrangers, les minorités ethno-raciales, etc., peuvent être définis de manière très flexible. Alors dans l'Allemagne nazie, c'est défini d'une manière très biologique. Bon, mais ça n'a pas nécessairement besoin, en quelque sorte, du point de vue des fascistes, d'être défini de manière biologique. Le racisme a été largement culturalisé depuis les années 70. On exclut, on stigmatise, on infériorise, on discrimine, non plus au nom de la race au sens pseudo-biologique du terme, mais au nom d'une culture qui serait incompatible avec la nôtre. Et je dirais, ça ne le rend pas plus sympathique, et même pas moins dangereux. Pour ceux qui sont l'objet de ce racisme, ça ne change absolument rien. Ce type de projet, en réalité, ça peut s'incarner sous des formes différentes. Et notamment, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de cet élément qui spécifie, je dirais, les mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres, qui est d'avoir réussi à développer des milices armées de masse. La question à ce stade qu'on pourrait se poser, c'est comment c'est possible qu'un tel projet, qui a quand même démontré son caractère meurtrier, destructeur au XXe siècle, comment ça peut retrouver une actualité ? Au sens de comment ça peut retrouver une audience auprès des populations. Alors évidemment, une première réponse, c'est que ils se présentent pas comme tels. C'est-à-dire qu'évidemment, faudrait vraiment les prendre pour des imbéciles que d'imaginer que ils vont nous servir leur projet tel quel sur un plateau. Ils sont pas du tout si stupides que ça, ou plutôt, il y a une partie d'entre eux qui sont stupides, mais ils font des groupuscules. Bon, et nous, on veut pas faire face simplement aux petits groupuscules de quelques dizaines de militants néo-nazis qui affichent la couleur, disons, mais aujourd'hui, il faut faire face à la principale organisation qui, notamment électoralement, incarne, en fait, et l'organisation qui, de la manière la plus habile, est parvenue à actualiser l'héritage fasciste, l'héritage du projet fasciste, à savoir le Front National, effectivement devenu Rassemblement National. Donc, alors, pourquoi ce projet retrouve une audience aujourd'hui? Alors, il y a un premier argument qui est nécessaire, mais absolument pas suffisant, qui est, c'est la crise économique. Oui, la crise économique, c'est le terrain sur lequel peuvent se développer des organisations qui développent ce type de projet. Historiquement, en tout cas, en chaque cas, il y avait des situations économiques de crise. Mais cet aspect-là n'est pas suffisant. Il y a des tas de pays qui ont connu des crises économiques extrêmement extrêmement fortes, ne serait-ce que la Grèce dans la dernière période, et qui ne sont pas tombés dans le fascisme. Ou les États-Unis des années 30 n'ont pas connu le fascisme, comme l'Allemagne, par exemple, l'a connu. Donc, dire que c'est la crise économique, ça suffit pas, même si on peut pas se passer de dire que c'est une condition, en quelque sorte, de possibilité du danger fasciste. D'une certaine manière, il faut essayer de comprendre comment la crise économique se transforme en une crise politique qui fait que le fascisme peut se retrouver, en quelque sorte, à l'ordre du jour. Et ce que je développe dans le bouquin, c'est que le type de crise dans laquelle les fascistes peuvent conquérir le pouvoir, c'est ce que j'appelle c'est une notion de Gramsci, une crise d'hégémonie. C'est-à-dire une crise de la capacité des classes dominantes, des bourgeoisies, à obtenir le consentement des populations à ce qu'elles font, à leur politique, à leur système, à leur ordre social, etc. Crise de confiance. Donc ça, c'est les symptômes, en quelque sorte, de la crise d'hégémonie. C'est une crise de confiance extrêmement profonde dans le personnel politique, dans l'ensemble des partis politiques. Donc ça, c'est, à mon avis, pour le coup, le terreau un peu plus spécifique sur lequel les fascistes peuvent développer leur audience au-delà de simplement une situation de crise économique. Donc le troisième aspect que je voudrais évoquer, dans une situation qui prête en quelque sorte au fascisme, c'est la situation de la gauche. C'est que, en quelque sorte, la gauche est trop faible pour apparaître comme une solution à la crise politique très profonde, mais elle est quand même trop forte, la gauche, disons, et les mouvements sociaux, de contestation très variées, hein, écolo, antiraciste, féministe, etc. Mais ces mouvements et la gauche sont en quelque sorte, du point de vue de la bourgeoisie, du point de vue de la classe dominante, sont quand même trop forts. Ils sont quand même trop vifs pour ne pas apparaître comme une espèce d'épine dans le pied pour la bourgeoisie, particulièrement quand la situation se tend sur le plan économique et que la bourgeoisie veut aller encore plus loin que ce qu'ils ont fait, c'est le cas en France avec Macron, que ce que la classe dominante a fait déjà depuis 20 ou 30 ans, parce qu'ils ont déjà fait des choses depuis 20 ou 30 ans. On a vu comment ils avaient cassé le code du travail en grande partie, privatisé toute une série de services publics, mais Macron, son but, sa mission d'une certaine manière, qu'il s'est donné à lui-même et que certains lui ont aussi confié, c'était d'aller encore beaucoup plus loin, c'était d'aller pleinement dans la refonte néolibérale du modèle social et économique français. Et du coup, une partie des classes dominantes peuvent être attirées par une solution un peu plus radicale que ce pour quoi ils pouvaient opter dans la période précédente. C'est-à-dire, donc, Hollande, Sarkozy, Macron, etc., ils peuvent vouloir aller plus loin. C'est le cas au Brésil, par exemple. Au Brésil, très clairement, des secteurs entiers de la bourgeoisie brésilienne qui avaient passé un compromis avec Lula, en fait, au début des années 2000, et Lula avait passé un compromis avec eux, notamment en nommant vice-président quelqu'un qui était dans la main, de la bourgeoisie brésilienne, eh bien, au cours des années 2010, la bourgeoisie brésilienne a clairement rompu son compromis avec Lula et avec le Parti des Travailleurs. Ils ont considéré que bon, la crise économique était trop grave, qu'il fallait aller plus loin, du coup, il fallait revenir sur toute une série de choses qui, finalement, coûtaient trop cher à l'État, des services sociaux, des trucs en matière d'éducation, de santé, etc. Et donc, que le Parti des Travailleurs ne pouvait pas faire ça... Et le fascisme, c'est un peu ça, c'est que c'est la rencontre entre, alors je dirais en général, plutôt un mouvement qui dans la société a une audience de masse, pas forcément capable de l'organiser dans la rue, sous la forme de milices, etc. Donc je dirais que la situation française, c'est ça. Le FN, c'est un mouvement de masse, au sens c'est un mouvement qui a une audience de masse. C'est pas un mouvement qui est capable de mobiliser ses masses dans la rue, en tout cas à ce stade, mais qui a quand même une audience de masse. Ils ont des gens, des millions de gens qui votent régulièrement et même quasiment maintenant à chaque fois, à chaque élection pour eux, quoi. Donc ils croient à ce que raconte le FN. Donc le moment où le fascisme devient possible, c'est le moment où ce mouvement qui a une audience de masse dans une société rencontre une certaine demande de certains secteurs au moins de la bourgeoisie. Et il y a d'autres symptômes. Quand on voit les déclarations de quelqu'un comme Luc Ferry, quand on voit sa réaction au mouvement des Gilets jaunes, on comprend bien qu'une partie de la bourgeoisie commence à être apeurée. Et pourtant, disons, le mouvement des Gilets jaunes, pour l'instant, ça bouscule largement le champ politique, mais c'est quelques centaines de milliers de gens qui se mobilisent dans la rue. C'est pas encore des millions de gens. Si c'est des millions de gens, on va voir les Luc Ferry émerger à peu près sur toutes les antennes. Des gens qui diront « Ah, maintenant, il faut envoyer l'armée, il va falloir effectivement tirer sur les manifestants. » Là, c'est juste un Luc Ferry, mais imaginons la situation qui deviendrait, et d'une certaine manière, il faut l'espérer, socialement beaucoup plus tendue, au sens où il y aurait beaucoup plus de gens, 10 fois plus de gens peut-être, dans la rue, et des secteurs en grève, des lycéens et des étudiants qui se mobiliseraient dans leur fac, ce qui n'est pas le cas des lycéens en décembre, mais ça n'a pas encore exactement repris, et dans les facs, ça n'a jamais véritablement pris pour l'instant. Mais imaginons cette situation-là, on aura des secteurs de la classe dominante qui appelleront à des solutions beaucoup plus autoritaires encore que Macron.
Vous écoutez toujours Radio Kaléidoscope, l'émission micro-ondes 97 FM. Alors du coup, voilà, on a écouté Hugo Paletta. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de réagir à ce montage? Est-ce que vous avez envie d'expliciter le terrain favorable à une montée du fascisme et ou qui seraient pour vous dans la société actuelle, que ce soit localement ou nationalement, les ennemis, les pro-fascistes, quoi? Emma, vas-y, je t'en prie.
Pour moi, aujourd'hui, il y a des ennemis qui sont un peu admis par tout le monde. En fait, aujourd'hui, tout le monde va se dire au quotidien anti-nazi de par ce qu'on nous transmet à l'école, etc. C'est des choses qui sont un peu admis, que le fascisme, c'est mal, que le nazisme, c'est mal, etc. Et du coup, d'une certaine façon, ça banalise une violence de la part de l'État, de la part des administrations, etc., qui est quotidienne et où en fait on va dire en fait non, eux c'est pas le fascisme c'est les nazis, c'est l'extrême droite, c'est tout ça. Et du coup je pense que d'une certaine façon cette banalisation du racisme un peu institutionnel en fait elle est due au fait qu'on se concentre trop sur les groupes qui s'assument d'extrême droite et fasciste en fait, et que du coup on néglige tout ce qui est banalisé par l'État et par l'administration. Et je pense que l'État et l'administration, c'est aussi un ennemi aujourd'hui dans les luttes antifascistes, parce que ça, c'est ce qui permet en fait qu'il y ait ces luttes, des actions fascistes, etc., qui soient menées librement. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a des... je veux dire, quand il y a des conférences comme il y a eu récemment à Grenoble contre l'avortement, contre la PMA, etc., ça concerne pas le racisme, c'est l'oppression des femmes, c'est les réduire à leur maternité, tout ça, et c'est des choses qui sont permises en fait par l'État, et qui fait que du coup l'État c'est aussi un ennemi qui permet en fait à ce fascisme de progresser dans la société.
Louise.
Du coup, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Emma, parce que je me dis, identifier des épouvantails qui n'en sont pas vraiment, hein, parce qu'ils le méritent bien qu'on les identifie comme tels, ça suffit pas, en fait. Le FN, on nous le balance toujours comme le grand ennemi d'extrême droite. Sauf que on a beau dire oui, ce sont des idées qui ont un peu contaminé le reste de la société, ça suffit pas non plus. Il y a des, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours au clair sur ce qu'on appelle le fascisme et que ça vaut le coup de sortir d'une espèce de consensus mou où on parle surtout par exemple de la question raciste. Et pour pouvoir identifier des structures fascisantes dans nos États, il faut pouvoir identifier c'est quoi le fascisme. Et pour moi, pour faire simple, en gros, c'est un système. Qui d'abord naturalise un certain ordre des rapports sociaux, c'est-à-dire une domination qu'on va justifier, alors elle est ou d'ordre divin, ou elle repose sur une distinction de race, peu importe. En tout cas, elle est généralement virile, toujours une propension très virile. Elle met en place un ordre qui est ségrégant et stigmatisant sur les femmes, les minorités, tout ce qui va définir une marge en fait. Elle est totalitaire parce qu'elle interdit de ne pas appartenir au corps social, c'est-à-dire qu'où on est conforme, où on est mort en fait, où on n'a pas le droit de vivre et on n'a pas le droit de s'exprimer. Et je me dis qu'une fois qu'on a identifié ça, du coup, ben ça aide à voir les dérives fascisantes de nos États. C'est-à-dire que la dérive du contrôle total dans laquelle on est, où on aimerait faire du contrôle préventif des comportements potentiellement déviants, par exemple, c'est une dérive fascisante qui est clairement identifiée. Quand on va dans certaines organisations ne pas lutter par exemple contre le sexisme, clairement, bah, c'est une des composantes pour moi du fascisme. Et l'ordre, un ordre qui va être justifié comme ça et maintenu, je trouve ça très dangereux. Et donc je me dis, voilà, à nous aussi d'être au clair avec la dimension raciste, la dimension sexiste, mais pas seulement le côté total de cette idéologie-là. Voilà, ça aide à la combattre.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Oui, vas-y.
Oui, moi je suis d'accord avec les deux interventions, bien évidemment, mais je pense qu'il faut rajouter la dimension de l'État autoritaire et de l'État qui mène lui-même les politiques racistes, parce que on renvoie toujours dans les quartiers, c'est raciste, etc. Mais c'est pas vrai, ça peut être raciste, hein, je suis pas angélique là-dessus, mais c'est les politiques qui mettent ça en place. Et le niveau aujourd'hui de répression, d'autoritarisme en face... La dureté des sanctions pour les gens de chez nous, quoi. Enfin, les migrants, les jeunes des quartiers, ça fait longtemps, les jeunes de quartier, et aussi aujourd'hui les gilets jaunes et tout ce qui bouge dans la société. Donc ce niveau-là de répression, bon, il y a des gens qui ne sont pas des révolutionnaires comme Toubon et d'autres qui disent on n'avait pas connu ça depuis peut-être 50 ans. Donc ça, c'est un fait nouveau. En plus de ce que vous dites, hein, qui est très important aussi dans la société, bien évidemment. Et ce fait-là, c'est assez craignos parce que au niveau du travail, ils nous ont divisés. Avant, par exemple, il y avait 500 000 salariés dans tout ce qui était l'industrie métallurgique, mais pas que. Aujourd'hui, c'était un article du Monde qui est très bien, qui était bien foutu. Il y a 500 000 personnes isolées qui travaillent. Et quand tu es isolé sur ton travail et qu'en plus, si tu l'ouvres, que tu sors dans la rue et tout ça, tu vas te faire matraquer, c'est vachement difficile. Et l'espoir des Gilets jaunes, c'est que justement, une partie de ceux qui étaient isolés se regroupent. Mais on parlera de ça après, de la lutte antifasciste. Mais moi, je crois que le niveau de l'État autoritaire, de l'État répressif, de l'État qui devient de plus en plus totalitaire, ça, c'est un des chemins du fascisme, je crois, qui se rajoute à ce que vous avez dit, bien évidemment.
Myriam, tu veux dire quelque chose ? Non ? Florence, vas-y.
Oui, après les interventions précédentes, moi je parlerais plutôt de l'évolution en fait du militantisme, ce qui a beaucoup changé justement par rapport à tout ça. C'est-à-dire que dans les années 80, on était tous sur la lutte contre le Front National et c'était il y avait un large spectre politique qui était derrière nous et tout ça. Et je pense que là, on s'est fait plus dans le militantisme, on s'est fait aveugler par ce consensus autour de cette lutte antifasciste. Et on s'est pas rendu compte en fait qu'il y avait tout un antiracisme politique à mener. Toutes ces choses-là, on les a un peu oubliées. Et tout ce qui était aussi par rapport au passé colonial, au fait que dans la population en France, les personnes sont déjà pas considérées de la même façon. Toutes ces considérations-là, on les avait pas pris en compte. Et en plus, il y a toutes les luttes féministes aussi. qui ont été complètement qu'on ne prenait pas en compte non plus dans nos premières dans le premier militantisme au niveau de Ralph Franc. Et c'est rajouté aussi toutes les luttes contre l'islamophobie, et ça c'est une prise de conscience qui a été assez tardive dans nos mouvements. Enfin, je parle pour Ralph Franc, il a fallu vraiment que des militants mettent le doigt dessus pour qu'on en discute et qu'on se rende compte de la chose. Et tout se rejoint en fait, et toutes les luttes actuelles qu'on voit sur les mouvements des gilets jaunes, on constate toute cette répression qui fait que, en fait, on constate qu'il y a, on a la, comment dire, c'est cette société capitaliste qui veut vraiment contrôler tout le monde. On doit être contrôlé, on doit être à sa place. Et en fait, il y a un idéal dans la société fasciste, c'est l'homme blanc de 40-50 ans, bourgeois, bien installé. Donc tu sors de cette image-là, tout de suite, tu peux te sentir d'une certaine façon, et j'exagère à peine, opprimé, quoi. Une femme, un étranger, quelqu'un qui n'a pas, comment dire, les bonnes orientations sexuelles, quelqu'un qui revendique. Et donc là, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe au niveau des mouvements des Gilets jaunes qui dépasse tout ça, que nous, par exemple, au niveau de notre assoce, on n'a pas du tout envie de maîtriser parce qu'on ne comprend pas trop. Et on essaie seulement de le comprendre. Et je trouve que c'est tout un mouvement, en fait, de contrôle social qui est en train de s'imposer à nous. Et là, on doit être extrêmement vigilants.
Myriam ?
Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Hugo Paletta, parce que ce qu'il explique, ça me va tout à fait. J'ai bien compris, en fait, suite à son intervention, comment on définit le fascisme et quels ingrédients il faut qu'il y ait dedans.
Est-ce que tu veux redire un peu à ta manière ce qu'il dit ?
En fait, il dit que ça ne suffit pas de dire que c'est du nationalisme. Parce qu'il y a des pays nationalistes, comme on pourrait dire que, je ne sais pas moi, Chavez était un nationaliste, mais bon, voilà. Donc ça ne suffit pas. Après, effectivement, il faut qu'il y ait une partie de racisme et surtout s'attaquer aux minorités, hein, ou les faire disparaître. Et puis, la troisième chose, c'est la fameuse question de si on n'est pas d'accord avec le régime en place, eh bien, on va s'attaquer aux réfractaires. Voilà. Et c'est là qu'il peut dire qu'il y a la possibilité du fascisme. Il me semble que pour moi, c'était assez clair. Et aujourd'hui, vous en avez tous parlé de ce qui se passe en ce moment sur la répression. Alors, bien sûr, les répressions policières, les violences policières, il n'y en a qu'une minorité qui les connaissait. Hein, c'est les opposants politiques, les militants gauchistes, comme on peut dire, ou je ne sais quoi, syndicalistes, et puis dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est une répression de masse, moi je pense, qui est en train de se passer à des opposants, à des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique en place. Et moi, ça me fait très peur. Et pour dire très peur, pour ce qui peut arriver, mais bon, il arrivera ce qu'il arrivera, on verra comment on fait face. Mais aussi, moi, j'ai peur de manifester depuis hier. Je devais aller à Valence, je le dis, hein, j'en ai... Et j'ai hésité, et bon, après, j'avais pas de bagnole, et puis il n'y a plus, mais je me suis donné plein d'excuses. J'ai peur qu'on s'attaque à mon intégrité, à celle de mes amis, des gens qui sont à côté de moi. Et j'ai jamais vécu ça, à mon âge, depuis le temps que je milite. Jamais. J'ai ému parce que j'ose le dire, et pour moi, c'est inquiétant. Voilà.
Merci Myriam.
Merci Myriam.
Je voudrais juste rajouter par rapport à ça, il y a les violences actuelles, ce qu'on subit actuellement, ce que beaucoup subissent actuellement dans la rue, mais il y a tout ce qui se prépare au niveau juridique avec les lois Elan et autres, et je crois que ça, je suis pas sûre qu'on en soit assez conscient. On est en train de préparer les clés du camion pour le fascisme d'État. Rappeler que le fascisme, c'est quelque chose qui a été conceptualisé pas très loin de chez nous, chez Mussolini, afin de prendre le pouvoir et de le garder pour ses amis capitalistes.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Louise ?
Oui, du coup, moi je voulais rajouter deux petites choses. Tout à l'heure, Myriam, tu parlais dans le deuxième élément de définition de stigmatiser les minorités, en fait. Et moi je me dis, il y a toujours cette question de mais qui définit qu'est-ce qu'une minorité ? Parce que je rappelle au passage que les femmes sont une majorité, hein, de la population, sauf qu'on les considère comme une minorité. Ce qui fait dire qu'on est bien dans un système qui a quand même une composante patriarcale qui est très forte. Moi, je la trouve très importante, en fait, parce que ça va avec le recours à la violence du fascisme, en fait. Et c'est pour ça que je pense à cette peur dont tu parlais en manif actuellement. Quand on a tous ces types habillés comme des Robocop et surarmés en face de nous, il y a cette dimension de... Moi, je ne supporte pas les mâles virils, mais il y a ça, et c'est ça qui représente le fascisme aussi, en fait. C'est cette violence brutale qui sort de ses gonds, qui sort de sa propreté, son côté policé, en fait, à ce moment-là, et c'est le versant hyper inquiétant qu'on voit exploser en ce moment. Je voulais aussi réagir sur ce qu'avait dit Emma tout à l'heure sur l'État. Et c'est vrai que moi, je me dis, c'est important de se rappeler quand même qu'on n'aime pas, bien entendu, sur d'autres antennes de radio plus mainstream, dire que l'État est raciste. Mais quand même, quand on voit la gueule de la loi Colomb et cette façon qu'elle a de cyniquement de réduire des gens à la clandestinité absolue pour le restant de leur jour, sachant qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Donc c'est condamné à la mort des gens qui ont survécu à la mort, en fait, qui arrivent ici. Moi, quand je vois l'état de, j'appelle même pas ça déshumanisation, c'est la objectivation des gens, je me dis, voilà, c'est ça le fascisme. Et quotidiennement, c'est contre ça qu'il faut lutter.
Merci. Peut-être on n'aura pas beaucoup de temps pour le développer là, mais on vous invite du coup à essayer de vous renseigner sur les lois qu'on a évoquées là, la loi Elan, la loi Colomb, et quelle autre loi éventuellement ? J'en oublie une. La loi anti-casseurs aussi qui est en débat. Donc on n'a pas le temps, c'est dommage, mais renseignez-vous là-dessus, c'est vachement important. Et en attendant, là tout de suite, on va s'écouter, je vous propose de s'écouter un petit morceau de musique. On va s'écouter un morceau de Panucci, un rappeur congolais exilé artistique en France aujourd'hui. Le morceau c'est Congo. Voilà, je vous laisse écouter.
Tata Nzambi, Tata Nzambi, Nzambi Mpungu Tulendo, Tata Nzambi, eh Congo, où vas-tu? On dit Mbemba, dis-moi, yeah. 342 000 kilomètres carrés. Pourquoi tes dirigeants ne sont-ils toujours pas carrés? 4 millions d'habitants et d'espoir d'années. Comme Traxakil, ça me saoule de voir l'État, ça me saoule de voir l'État me niquer. Et ça papote lentement depuis des années. Marche pacifique, violemment réprimée. À côté des cours, des commentaires paumés. Du genre Binopé, Moutouma Kassi Leki. Mokanisibo, changer Moko, Yoboti, Kanabino. Tatawana, Aza, sans pitié. Bolingi, beaucoup fanabino. Ah, papa, toko sala, lissousou nini, hein. Résignation ou changement de cap, nul ne sait. J'ai crié liberté dans les fenêtres de Brazzaville. On m'a demandé d'aller voir le ciel. Et pendant ce temps, le poule saigne. Des femmes accouchent à même le sol sans assistance. Dans les forêts, des gosses meurent et les cols meurent. Dans le silence de tous les Congolais. Mais qui a sorti les hélicoptères pour bombarder nos terres? Demande à Sidobé, cœur à cœur. Démocratie à la congolaise. Plus de 4 millions d'habitants portent atteinte à la sûreté de l'État. Mais que veux-tu faire quand le bâton de la justice fait moins d'un mètre 60 et les poches des Congolais suintent? Mais dans les rues d'un pila, toutes les villas puent l'argent du pétrole. Le Congo est tout sauf une démocratie, un état policier où tous les jours les spires font des trolls. Et ça n'a rien de drôle, mais sur la toile je vois que tous les zombies friment.
Hey, yeah. Hey Congo, hey Congo, hey Congo, hey Mboke chika ma koko, hey komina pon Mboke chika ma luango, wal menyenga, hey Wal menyenga, hey Wal menyenga,
hey Contre l'Union africaine pour non-assistance.
Je porte plainte.
Contre Hollande pour ingérence outragère.
Je porte plainte.
Contre la communauté internationale pour négligence.
Je porte plainte. Plainte, plainte, plainte.
1960-2017, cela fait 57 ans de misère. Dans le Congo, du sang et des pleurs. Y'a des morts, mais pas de coupables. Les bourreaux et les complices sont à table. Ne me parle pas d'Ongada Bassoso. Ici, les vraies prostituées sont en cravate. Les aspirations du peuple, ils s'abordent et les flics du pays s'emportent. Pas étonnant quand le trésor public se retrouve dans les chambres des ministres. J'ai pas confiance en votre justice, alors ma plainte, je l'enregistre. Le Congo gît au sol et son cadavre pisse le sang, aveuglé par la misère et la pauvreté. Les Congolais taisent, ne ferme pas les yeux, compatriotes. Ta liberté, c'est l'État qui la pèse. Y'a pas d'issue dans cet enfer de chair humaine où l'école forme des chômeurs, des râleurs, des brailleurs, les parleurs. À l'heure où le monde bouge, certains n'ont d'autre choix que d'aller voir ailleurs. J'ai fui cette caserne militaire qu'ils appellent l'université. Pourquoi leurs enfants n'y étudient pas? Ils sont envoyés ailleurs. Simple curiosité, le monde s'effondre, je reste serein. Appelle-moi Andréa Gombe. La liberté d'expression a du plan dans l'aile. Demande à qui fortune.
Hey, 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 Congo, hey, Congo, hey, Congo, hey.
Boketi kama goku e komina pon. Boketi kama lwango palmenyenga e. Palmenyenga e. Palmenyenga
e. Je porte plainte contre l'Union africaine pour non-assistance.
Je porte plainte
contre Hollande pour ingérence outragère.
Je porte plainte
contre la communauté internationale pour négligence.
Je porte plainte, 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 plainte.
Yeah. Le Congo du sang et des larmes, c'est eux qui le créent. Le Congo des libertés, c'est eux qui le craignent. Au nom de Tamatoa, de Kimbangu et des Bafourou, je vous ferai la guerre. Je taperai sous les consciences jusqu'à ce que vos têtes vomissent toutes ces bières qui vous font oublier que nous sommes un peuplé, non des moutons, à qui on tord la conscience à coups d'un gang de primus, mais qui ignore que face à l'oppression, tous les peuples s'unissent. Je n'attendrai pas qu'on punisse pour avoir dit la vérité. Alors, comme Yahvé, je gueule jusqu'à m'en péter les cordes, comme Ludovic la brise. J'ai enjambé mes peines et fait la tôle et serré les coudes pour toutes ces majorités qui subissent. Je suis un révolté avec une opinion, appelle-moi Jean-Claude Nyangwaïla. Entre moi et les politiciens au Congo, c'est comme les diables rouges et les Congolais à la fin de chaque match. Besoin de Doliprane et de paracétamol, les abongos. Et dans les supplices, nos cœurs se ferment et souffrent quand dans la douleur nos yeux s'ouvrent.
Hey Congo, hey Congo, hey Congo, hey. Boketi kama goku, hey komina pon. Boketi kama lwango, palmenyenga, hey. Palmenyenga, hey. Palmenyenga,
hey. Je porte plainte contre l'Union africaine pour non-assistance.
Je porte plainte
contre Hollande pour ingérence outragère.
Je porte plainte
contre la communauté internationale pour négligence.
Je porte plainte, plainte, plainte.
Vous écoutez toujours Micro-ondes sur Radio Kaléidoscope 97 FM. On continue notre émission à propos du fascisme, de Ralph Ron et toutes ces choses. Je ne sais pas comment mieux le résumer. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour discuter. Et du coup, là, maintenant, la question que je voulais vous poser, c'était quelles sont les pratiques antifascistes que vous avez au cœur de vos organisations ou alors que vous aimeriez voir émerger et quels sont les alliés en fait que vous imagineriez avoir au cœur de ces pratiques. Florence.
Au niveau de notre association, le réseau de lutte contre le fascisme, on se veut un réseau d'alerte et d'information. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur nos rencontres qui ont lieu en janvier à Voiron. Donc c'est un point qui est important. On diffuse aussi pas mal d'informations, on fait des tracts, on essaie d'être réactif quand quelque chose se passe sur des interventions, on essaie d'alerter tous les réseaux militants. Voilà comment on souhaite continuer à travailler. Sinon, moi personnellement, ce que je peux espérer, je pense que pas mal de militants aussi, c'est ce qu'on appelle la fameuse convergence des luttes ou des combats, c'est-à-dire que arriver à faire comprendre à une grande partie de la population que plein de luttes sont liées, en fait, que les luttes sociales, les luttes antifascistes, les luttes dans les quartiers populaires, les luttes pour la préservation des services publics, plein de choses sont liées. Donc, quand les gens vont arriver à comprendre ça, je pense qu'on va vachement avancer et que ça peut être que très positif pour tout le monde.
Claude ?
Oui, alors plusieurs choses, plusieurs réflexions, pas des pistes. Il y a une chose qui m'agace dans les mouvements de lutte contre le fascisme, racisme. Il n'y a que dans la lutte pour le féminisme que j'y retrouve mon compte. C'est que on reste dans une espèce d'entre-soi. On parlait tout à l'heure de la journée de Voiron, quelque chose de formidable, mais on est des blancs-blancs. Ça me gêne pas d'être avec des blancs-blancs, mais c'est bon, on sera un petit peu mélangés, ça serait quand même un peu mieux la société. Ensuite, j'ai un peu oublié ce que je voulais vous dire. Nous, lorsque nous parlons à la tête. Nous parlons éventuellement au cœur, alors que, écoutez bien, lisez bien tous les discours fascistes, fascisants. Eux, ils parlent au ventre et aux tripes. Et à la testostérone, je pense que c'est là où nous devrions réfléchir et trouver des pistes d'action. Est-ce qu'on doit parler plus aux tripes, nous aussi ? Est-ce qu'on doit se compromettre là-dedans ?
Myriam ?
Oui, alors rapidement, parce qu'il faut qu'on partage la parole. Non, enfin les rencontres de Ralph Ron, chaque année, il y a des thématiques différentes. Et effectivement, je pense pas qu'on soit entre nous, surtout quand on a traité depuis 4 ans sur la question de l'islamophobie, des quartiers populaires, des racisés, etc. Et ben les blancs-blancs, ils nous faisaient la gueule quand même. même dans le, autour de nous, dans l'Assemblée. Et voilà, mais on a résisté à ça. OK ? Sinon, moi, aujourd'hui, je pense que où on est entre nous, où je commence à me poser des questions, j'en discute beaucoup avec les camarades de Ralfron, c'est on est dans un moment de l'histoire, là. On est un peu, enfin, moi, je ne sens pas que je suis à la traîne, mais une partie de mes camarades. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a une lutte populaire, sociale, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas sur le, je ne sais pas. Je pense qu'il faut être là-dedans, mais à fond. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner d'aller emmerder les gens du bastion social à Chambéry. Mais personnellement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, pour moi, ce n'est pas une priorité. Alors, il faut donner un coup de main à nos amis de Chambéry. Mais juste aller voir les néo-nazis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, on sait qu'il y a des petits groupes néo-nazis. Et tout le monde est d'accord que ce n'est pas bien, qu'ils sont nuls, que c'est... Que, voilà. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut, il faut vraiment être à côté, avec, dedans, ce mouvement social. Voilà. Louise ?
Oui, bah, du coup, ça tombe bien parce que c'était une chose un peu similaire que j'avais envie de dire. Moi, j'imagine pas faire quoi que ce soit sans les principaux concernés. Autrement dit, bah, au même titre que les luttes pour les droits des femmes, c'est des femmes et que ça empêche pas des mecs de venir soutenir les luttes, sauf que c'est pas à eux de parler à la place des femmes. Je vois mal comment des blancs pourraient parler systématiquement à la place des autres et faire pour eux avec le risque du paternalisme un peu postcolonial du bon côté que ça implique. Et donc je me dis, moi je, par exemple dans le terme d'orga, j'ai été patate chaude et actuellement par exemple l'RESF, c'est des occasions d'être dans une forme de militantisme un peu aussi de 1 à 1, c'est-à-dire directement dans l'accompagnement des gens. Comme ce qu'on fait aussi à Précaire Solidaire, d'accompagner personnellement des gens aussi. Je trouve que ça favorise le contact et ça permet de ne pas être dans des luttes théoriques qui nous arrangent bien parfois parce qu'on a l'impression de faire quelque chose en écrivant un tract ou une manif et on n'est pas forcément au contact des personnes qu'on prétend défendre, quoi. Voilà.
Emma ?
Moi, je n'ai pas encore milité dans le cadre d'une organisation contre le fascisme et même contre le sexisme, etc. Vraiment dans une organisation destinée à ça. Donc je ne me rends pas vraiment compte. Après, individuellement, je pense que c'est important déjà de faire attention à nos comportements, en fait, de se remettre en question par rapport à ce qu'on avance théoriquement, en fait, par rapport à nos propos, etc. Après, l'accompagnement de 1-1 aussi, c'est ce qu'on a fait pas mal au patio. Et je pense que c'est... En fait, nous, on est là pour être des soutiens, on n'est pas là pour être moteurs. Et je pense que ce qui est problématique à ce niveau-là, c'est que les personnes... ce qui diffère du coup des luttes féministes, où en fait, dans les luttes féministes, effectivement, c'est souvent, il y a souvent beaucoup de femmes, là où dans les luttes antiracisme, il n'y a pas souvent beaucoup de personnes concernées. Et je pense que c'est parce qu'il y a une forte répression en fait, à leur égard et qui fait qu'ils vont moins oser se mettre en avant. Par exemple, pour la question des demandeurs d'asile, en fait, les demandeurs d'asile, ils ne vont pas oser... forcément aller dans une manifestation contre la loi asile et immigration parce qu'ils savent qu'ils se mettent en danger administrativement en cas de répression policière, etc. Et du coup, en fait, il y a tout qui est fait pour que dans ces luttes-là, les principaux concernés ne puissent pas se prendre en main et en fait être eux-mêmes acteurs de leur lutte. Et ça, je pense que c'est très problématique.
Mais du coup, ce que tu dis, ça me donne envie de me poser une question, en fait, en termes de pratique, justement, parce que si les gens, comme tu dis, les principaux concernés, les demandeurs d'asile par exemple, les demandeurs et demandeuses d'asile ne viennent pas en manif, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir, d'être après, disons, entravés dans leur démarche de papier, tout ça, pour pouvoir vivre en France tranquillement, ce genre de choses. Mais alors du coup, la question que j'ai envie de me poser, c'est quelles pratiques on peut imaginer pour que ces gens-là aussi puissent s'emparer de leurs propres questions, de leurs propres enjeux politiques, sans qu'ils aient peur pour leurs papiers ? Louise ?
Bah, moi, j'ai tendance à me dire que c'est ceux qui ont les moyens de le faire qui doivent le faire, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est à ceux qui sont protégés un peu comme nous, entre guillemets, qui avons plus de droits, de toute façon, que des gens, au même titre qu'à la patate chaude, c'était pas les Roms qui ouvraient les squats, en fait. Enfin, c'était des personnes qui le faisaient aussi, et c'est un parti pris que moi, j'ai envie de soutenir, de dire à un moment ce qu'on peut appeler, qui commence à la désobéissance civile et qui va plus loin, de dire à un moment, bah, ceux qui ont des droits, ils doivent les utiliser pour protéger ceux qui en ont pas. Donc voilà, d'un commun accord, pas faire les choses à la place d'eux, mais soutenir suffisamment pour prendre des risques à leur place quand eux ils peuvent pas les prendre, quoi.
Rosine ?
Moi je pense que on a vraiment sur ces questions-là un gros métro de retard. Je pense quand ils ont massacré les quartiers,
les jeunes des quartiers, honnêtement, on n'y était pas beaucoup. On n'y était pas beaucoup, voire on n'y était pas. Sur les migrants, ça a un peu évolué quand même. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle les délinquants solidaires, c'est exactement ça. C'est des gens, eux, ils risquent normalement rien, quoique maintenant ils risquent. Ils risquent normalement rien et ils viennent aider, ils viennent soutenir. Et je trouve, moi, ce qui est positif actuellement, c'est que ce genre d'expérience, ça se multiplie. Je vois, par exemple, on parlait du patio. Là, Emma parlait du patio. Moi, je suis sur les démolitions, contre les démolitions à Villeneuve et sur la rue Jet, eh ben là, on est vraiment soutien à des personnes ou qui habitent là ou qui sont qui habitent là. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça va pas aller plus vite parce qu'on a du retard, nous, les organisations syndicales, politiques, associatives, tout le monde, je crois que tout le monde a du retard et c'est pour ça que souvent on est entre blancs, mais on est en train peut-être de redonner confiance. Et je pense que s'il n'y a pas confiance, ils iront jamais. Mais ils auront jamais confiance vis-à-vis du pouvoir, heureusement, parce que nous non plus, on n'a pas confiance vis-à-vis de l'État. Donc c'est pas là qu'elle doit jouer la confiance. C'est la confiance avec nous. C'est pour ça que faire des choses ensemble, mais en étant bien chacun sur son créneau, moi je trouve que le terme de soutien, de délinquant solidaire, tout ça, et d'aller peut-être plus fort là-dessus, je trouve que c'est très très intéressant. L'autre chose, je crois quand même, dans cette ville, on réussit quand même des manifestations où on mélange des gens. Mais quand ils ont fait l'expérience, c'est quand même assez intéressant. Quand on est allé à Gap, les seuls que les flics ont descendu du car, vous y étiez, certains d'entre vous, eh ben justement, c'est les étrangers. Hein, quel que soit leur pays d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des Norvégiennes qui se sont fait descendre comme les autres. Bon, les Blancs, ils descendent, ils soutiennent, ils partiront pas sans eux, etc. Je pense qu'il faut qu'on fasse ensemble des expériences de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, j'arrête là, mais j'insiste le 16 mars. Si on arrive à avoir les Gilets jaunes qui s'en prennent plein la gueule, le collectif qui s'est mis en place contre les répressions, et les migrants avec une revendication phare, genre des papiers pour tous, alors ouvrez les frontières, tous les trucs qu'on dit, mais des papiers pour tous, parce que là, le capital, il se fait du beurre sur les gens qui travaillent gratos. Il y en a plein à Grenoble, il y en a plein dans toutes les villes, on les connaît. Donc si on fait deux trucs comme ça en même temps, je pense que Valletta, il disait, il faut unir les forces vis-à-vis du fascisme. Là, peut-être on reprend la main, peut-être. C'est pas gagné, mais on n'a pas d'autre choix que d'essayer quand même.
Est-ce qu'une autre personne veut réagir? Parce que du coup, là, ce que je me posais comme question, c'était, vous commenciez à l'évoquer ce genre de choses, c'est comment vous faites du coup pour laisser de la place aux principales personnes concernées dans les luttes et tout, pour qu'elles s'expriment et pour entendre aussi ce qu'elles voudraient avoir comme revendications et tout ça. Vas-y, Emma.
Au patio, ce qu'on avait l'habitude de faire, par exemple, avant un rassemblement ou une manifestation, c'était on faisait des réunions où on discutait avec les habitants en fait de ce que eux ils avaient envie de porter, dans quelle mesure ils pouvaient le porter. Souvent il y en avait que 4 ou 5 qui étaient partants pour aller vraiment sur le lieu du rassemblement ou de la manifestation, mais du coup ils nous demandaient, c'était eux qui rédigeaient ce qu'on allait devoir dire, etc. Et on le disait au nom des habitants du patio, c'était pas on explicitait bien que c'était pas nous qui portions ça, c'était les habitants du patio, c'était eux qui avaient rédigé ce qu'on était en train de lire, mais que à cause de tout ce qu'on a évoqué précédemment, ils ne pouvaient pas eux-mêmes le porter.
Ok.
Du coup, je pense que, en fait, ce que je veux dire, c'est un peu plus théorique, c'est que quand on accompagne des gens, il faut faire attention à leur laisser de la place. C'est comme dans les prises de parole dans un groupe, à un moment, ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent prendre la parole, avoir une idée sur tout. Du coup, ça suppose une écoute particulière des pratiques, en fait, d'écoute qui laissent leur place aux gens. Qui font un effort. Moi, par exemple, j'accompagne une dame qui est congolaise, que j'ai du mal à comprendre, en fait. Et ça demande de la patience, ça demande vachement de délicatesse dans le rapport social pour ne pas lui faire sentir, pour qu'elle ressente pas une fois de plus l'humiliation d'une incapacité sociale qui lui serait remise en pleine poire comme ça. Et donc, c'est un rapport social, pour moi, qu'il faut travailler quotidiennement, en fait. Enfin, c'est ça, surtout. C'est vrai. Pour moi, le fascisme, c'est un rapport social qui nie l'autre, en fait. Voilà, qui nie l'autre et le droit d'être un sujet. Donc en fait, rétablir l'autre en tant que sujet, à minima, acteur de sa vie, c'est le truc de base et ça se fait sentir, le respect. Enfin...
En termes d'alliés, on peut parler aussi, d'alliés, pas forcément d'alliés, mais en termes de d'organisations qui existent aussi, outre celles que vous avez mentionnées au sein de Ralfron, il y a aussi, alors là j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide et tout pour faire le tour, mais il y a aussi des collectifs comme le FUIQP, les collectifs qui existent autour de Adama Traoré, et ça, je veux bien que vous m'aidiez.
Vivolé.
Vivolé.
Oui, c'est une association nationale qui est importante.
Idriss.
Bah, plutôt que de faire un listing, peut-être voir les liens qui se tissent, et notamment la journée à Voiron, qui chaque année permet justement de, je crois, de solliciter ces collectifs, la faire venir et venir nous parler. Surtout à Voiron, où justement on est un peu en dehors de la zone urbaine classique, qui nous sort un peu de là où on a l'habitude d'être, et de rencontrer des personnes qu'on rencontre peut-être pas encore suffisamment dans nos luttes, et de se rencontrer mutuellement. Et ça, je trouve que Ralph Ron fait ça vraiment très bien à Voiron depuis maintenant 11 ans, je crois. C'était les 11e rencontres cette année. Donc ça, c'est des formes de pratiques intéressantes. Et je crois aussi que dans le cadre syndical, on arrive aussi à se rencontrer, parce que c'est sur les lieux de travail où on est tous ensemble. Tu disais tout à l'heure, Roselyne, en fait, on a voulu nous diviser sur nos lieux de travail. Et c'est là où on peut aussi aller chercher les plus précaires, et ceux en fait qui ont les pires contrats et les pires conditions de travail. Et c'est là où en fait il faut faire du boulot syndical, et les syndicats normalement se revendiquent tous globalement antifascistes. Après, il faut voir sur le terrain ce que ça donne, mais des syndicats comme Sud, comme la CNT, et même une partie de la CGT, la base de la CGT, qui va chercher les précaires et qui va proposer des cadres d'auto-organisation pour les personnes qui subissent le plus les discriminations dans le cadre du travail, et du coup les discriminations sociales. Donc je trouve qu'il y a des choses qui se font. Après, il y a aussi les collectifs que tu as commencé à citer, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et du coup, c'est compliqué de parler aujourd'hui des liens qu'on peut tisser avec des collectifs qui ne sont pas présents. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font.
Après, ce n'était pas forcément pour tisser des liens avec. C'était aussi pour mentionner pour nos auditeurs, auditrices, ce qui existe. Si jamais les organisations qu'on a déjà évoquées ne leur parlent pas, et ben, il y a d'autres choses qui existent aussi. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Jeanne, moi j'étais en technique, je suis passée juste de l'autre côté pour rajouter un petit truc justement par rapport à ces collectifs et aux éditeurs, auditrices qui auraient envie de creuser sur le collectif Justice pour Adama, sur les FIQP et tout, parce que bon, il y a souvent Youssef Brakni qui est souvent entendu, il y a Omar Slaouti qui disent des choses aussi sur justement ces difficultés à fonder des alliances. Et une des raisons pour lui, c'est Omar Slaouti en tout cas, c'est l'échec de la gauche, c'est qu'à un moment donné, faire alliance en parlant de nous tous unis, mais que pour lui, le préalable à toute lutte en alliance, c'est la reconnaissance, et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en commençant l'émission en parlant d'où vous étiez, quoi. Mais c'est la reconnaissance au préalable de là où on est, et des différences et des inégalités qu'il y a entre nous, et qu'en fait il peut pas y avoir de lutte ensemble sans cette reconnaissance préalable des dominations qui traversent, quoi. Enfin voilà. Enfin juste pour aller plus loin, effectivement, ces collectifs-là, je trouve qu'ils ont des perspectives qui peuvent permettre de penser à un avenir de lutte collective.
Une dernière réaction ? Peut-être maintenant on peut parler de l'agenda de vos organisations respectives. Si vous avez quelque chose à dire, des événements qui doivent arriver, si vous voulez en parler.
Alors pour RLF, Ralph Ron, pour les intimes, eh bien l'agenda, alors là on s'est un petit peu calmé après les rencontres du mois de janvier, mais l'objectif, on va appeler à une troisième réunion avec tous les camarades antifascistes, les syndicats, etc., pour voir comment on peut lutter ensemble et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de cette année, et puis après, on verra bien ce qui va se passer, hein, parce qu'il va s'en passer, et puis bien sûr les rencontres l'année prochaine, on verra où on en sera.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Alors du coup, on va passer à l'agenda de l'émission. Alors pour ça, je vais laisser la parole à ma chère collègue pour qu'elle parle d'une partie de l'agenda.
Et oui, alors la première chose dont on voulait vous parler, il faut courir, c'est maintenant tout de suite, c'est à 14h à l'arrêt Vallier-Catane. Et l'idée, c'est de faire un rassemblement pour aller ensuite devant la caserne de CRS pour protester contre les violences policières qui sont faites aux gilets jaunes et aux quartiers populaires depuis plus de 30 ans. Et ça, c'est à l'appel des femmes de Gilets jaunes 38 et des femmes de quartiers populaires. Il y a un lâcher de ballons qui est prévu avec les photos des victimes et des bougies. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses. C'est à 14h tout à l'heure, là, tout de suite. Ensuite, un deuxième événement dont on voulait vous parler, donc c'est demain. Pour la quatrième fois, il y a un appel à rassemblement de différentes organisations, notamment féministes, à 19h30 devant le musée de Grenoble. Pour le quatrième lundi consécutif, il y a un rassemblement pour manifester notre mécontentement par rapport à l'Université de la Vie qui est organisée par l'Alliance Vita. Et du coup, dans ces universités de la vie, eh bien, c'est un peu la place à des discours réactionnaires, anti-avortement, homophobes, entre autres, sous l'excuse de parler de bioéthique. Alors là également, venez nombreux, nombreuses pour faire du bruit, chanter, crier des slogans et montrer que, eh ben voilà, on sera toujours là et toujours vigilante par rapport à ce genre de propos.
L'événement principal dont je voulais parler, c'est mardi 5 février, oui, c'est mardi novembre. Prochain, voilà. À 14h au carrefour Vallier Libération, c'est-à-dire près du local du MEDEF. Et c'est quelque chose d'important, pourquoi ? Parce que il y a déjà les gilets jaunes qui se battent avec toute leur diversité depuis trois mois. Et là, il y a une convergence qui est peut-être en train de se réaliser avec le mouvement syndical et peut-être des partis politiques. Il y a eu au début des difficultés pour arriver à ça. Actuellement, il y a quelque chose qui est en train de d'émerger. Et on peut espérer qu'à Grenoble, mardi 5 février, et en France également, c'est en train de se développer sans problème, qu'il se passe également un phénomène nouveau. C'est qu'on essayait de réduire les gilets jaunes à des... Enfin, quand je dis on, c'est surtout les grands médias, le gouvernement, parlait beaucoup de l'extrême droite présente, etc. Là, il se passe quelque chose, c'est que l'extrême droite est en train de réagir parfois violemment et que par contre, le mouvement social au sens large avec les syndicats, etc., sont en train de coaguler ces manifestations. Donc on rêve peut-être, mais j'espère que non, que c'est en train de justement... Il y a un mot d'ordre de grève générale de certains syndicats, il y a des blocages qui vont se faire à l'initiative également syndicale et qui rejoignent un peu ce que font les gilets jaunes. Donc c'est cette convergence dont on parle depuis longtemps, mais qui est en train d'aller dans la bonne direction en ce moment. Voilà. Et puis, bon, je rappelle, pour la troisième fois de l'émission, mais c'est important qu'on prépare dans le même ordre d'idées, le 16 mars, qui a l'avantage aussi d'avoir une présence des quartiers populaires, et ça c'est très très important aussi, c'est peut-être le seul moment où on voit que là il y a une convergence de ce point de vue-là, notamment à Paris.
Ben, merci beaucoup. Claude, est-ce que tu as envie de nous lire un petit poème ?
Oui, je vais vous faire ce cadeau pour les auditrices, les auditeurs et mes amis autour de la table.
Merci.
C'est un poème de Abdelatif Larabi, qui est un Marocain exilé en France. Vous imaginez pourquoi ? Il est poète, essayiste, auteur dramatique. C'est pas très drôle, mais c'est très beau. Les tueurs sont à l'affût. Mère, ma superbe, mon imprudente, toi qui s'apprêtes à me mettre au monde de grâce, ne me donne pas de nom. Les tueurs sont à l'affût. Mère, fais que ma peau soit d'une couleur neutre. Les tueurs sont à l'affût. Mère, ne parle pas devant moi. Je risque d'apprendre ta langue. Et les tueurs sont à l'affût. Mère, cache-toi quand tu pries. Laisse-moi à l'écart de ta foi. Les tueurs sont à l'affût. Mère, libre à toi d'être pauvre. Mais ne me jette pas dans la rue, les tueurs sont à l'affût. Amère, si tu pouvais t'abstenir, attendre des jours meilleurs pour me mettre au monde, qui sait, mon premier cri ferait ma joie et la tienne. Je bondirai alors dans la lumière comme une offrande à la vie, de la vie à la vie. Et c'est tiré du spleen de Casablanca. Merci.
Merci beaucoup. Vachement bien.
Ouais, vachement bien.
Merci à toutes et tous d'avoir été là. C'était très bien comme émission, je suis très contente. C'était la première fois que j'animais un plateau, donc je suis très contente. Merci. Ouais, ça va, merci. je voulais aussi vous dire que, du coup, en termes d'agenda, il y a aussi ça. C'est ne manquez pas la prochaine émission le 3 mars, qui sera en omnicité et qui parlera de féminisme, de toutes les choses féministes qui se passent. Voilà. Et sinon, on va aussi, je vous dis au revoir. Je vous dis au mois prochain, du coup. Je vous remercie. Et on va passer un petit morceau pour se quitter qui s'appelle Valparaiso, choisi par un invité qui n'a pas pu venir et qui lutte aussi contre le fascisme, Harald Front. Bon, tu nous excuseras, Laurent, mais on n'a pas retrouvé l'auteur et l'interprète de cette chanson. Mais voilà, on va la passer et on se quitte là-dessus. Au revoir.
Au revoir.
Un jour à Valparaiso,
feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise, on ne nous attend pas.
Il est mort, le cavaliero.
Ils viennent avec leurs bottes,
ils ont la loi des fusils.
Les chenilles des tanks rampent vers Santiago.
Ce matin, le ciel est beau.
Nous irons un jour à Valparaiso.
Feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise,
on ne nous attend pas.
Il est mort, le cavaliero.
Il tue les ouvriers, il massacre les partisans.
Ils arrêtent, ils frappent des milliers de gens.
À midi, tout est fini.
Un jour à Valparaiso,
feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise,
on ne nous attend pas.
Il est mort, le cavaliero.
Ils ferment les frontières, ils torturent dans les prisons.
Ils pillent, ils saccagent les jardins, les maisons.
Et ce soir, le ciel est noir.
Raciste ou nazi,
nous irons un jour à Valparaiso.
Feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise,
on ne nous attend pas.
Mais que vive la liberté,
mais que vive la liberté,
mas que viva la libertad.
Un tarif réduit sera accordé à l'heure bleue aux spectateurs se présentant avec leur ticket Montciné du film Edmond. Edmond à Montciné du mercredi 30 janvier au mardi 5 février. Et enfin, la fabuleuse histoire d'Edmond.